I'm a fan of Denmark, too. But, you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land.
Bonjour, heureuse de vous retrouver pour débuter une nouvelle série du fil de l'histoire. Cette semaine, on parle de l'histoire d'une terre longtemps ignorée, le Groenland. Depuis quand le Groenland est-il convoité? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine. Du lundi au vendredi à 14h50, à podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série, qui est aussi diffusée le dimanche soir à 21h sur France Inter.
Nous allons faire quelque chose au Groenland, qu'ils le veuillent ou non. Je voudrais faire un accord simple, mais si ce n'est pas possible, on utilisera la méthode dure.
Donald Trump à la Maison-Blanche le 9 janvier 2026. Le Groenland, depuis quelques années, avec une accélération fin 2025, début 2026, a été propulsé, bien malgré lui, dans l'actualité. Pour deux raisons. Longtemps couvert à 80% de glace, ce territoire immense situé aux confins de l'Arctique subit de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique avec la fonte de plus en plus rapide de ses glaciers. Et le Groenland, longtemps négligé, est redevenu un puissant verrou stratégique, convoité pour ses routes maritimes, sa pêche, ses bases militaires, ses hydrocarbures et ses minerais. Ce nouvel intérêt nous donne l'occasion de nous replonger sur une carte pour situer cet immense confetti blanc. Le Groenland a beau signifier littéralement « terre verte », c'est surtout le blanc qui domine. Première constatation, le Groenland est une île, la deuxième plus grande du monde après l'Australie, de 2,2 millions de kilomètres carrés, soit près de 4 fois la France. Située dans l'Atlantique Nord, avec à l'ouest le Canada et à l'est la minuscule Islande. Quant à l'histoire du Groenland, elle est aussi un enjeu dans la guerre de récit engagée récemment par les États-Unis. Le président Trump a déclaré « Il y a 300 ans, nous aussi, nous étions là avec des bateaux, j'en suis sûr ». Qu'en est-il exactement? Depuis quand et par qui cette île a-t-elle été convoitée? Comment les autochtones inuits ont-ils vécu sous la domination danoise jusqu'à leur autonomie? Nous parlons de tout cela cette semaine avec vous, Mikko Blujon-Mered. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en géopolitique et stratégie des régions polaires à l'Université du Québec à Trois-Rivières et auteur de la préface du livre « Alors tu veux acheter le Groenland » d'Elisabeth Buchanan aux éditions Saint-Simon.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Où diable aller? Il ne sait pas tellement où aller. Plus loin, il n'y a rien. On a bien entrevu, il y a quelques dizaines d'années, des terres qui semblaient se profiler dans la brume. Mais ces terres existent-elles réellement? Est-ce la brume? Est-ce de la terre? Eh bien, Eric décide d'aller voir.
Cela fait longtemps que le Groenland est l'objet de convoitises, parfois par des individus cherchant à fuir leur pays, ayant des crimes sur la conscience et des comptes à régler avec la justice. Le plus ancien et le plus célèbre est le viking Éric le Rouge. Son histoire est racontée dans les fameuses sagas, écrites au XIIIe siècle par un moine islandais. Peu avant l'an 1000, Éric le Rouge, un viking querelleur et brutal, est condamné à 3 ans de bannissement après avoir commis un double meurtre. Mais où aller? Éric, dit le Rouge parce que sans doute il a les cheveux roux, se souvient qu'un jour un ami lui avait parlé d'une terre inconnue, chargée de glace et de neige. Pourquoi ne pas y tenter sa chance? Éric embarque, non pas sur un drakkar, mais sur un kneur ou un skeid, et réussit à accoster sur la côte ouest d'une terre qui semble hospitalière, à laquelle il donne un nom prometteur, Groenland, le pays vert. Au bout des 3 années de bannissement, il retourne dans son pays et réussit à convaincre des Islandais à partir s'installer au Groenland. Nous sommes en l'an 986, 25 bateaux prennent la mer. Seulement 14 arriveront à bon port. 2 communautés vikings s'installent le long des fjords. Une à l'ouest de l'île, l'autre à l'est, comptant près de 200 fermes et 2500 personnes travaillant la terre et élevant du bétail. Ces colonies vikings vont prospérer pendant 500 ans et un jour disparaître, sans que l'on sache pourquoi. La dernière mention d'un viking aperçu au Groenland, on la doit à un marin islandais ayant accosté au Groenland dans les années 1540. Il raconte qu'il a découvert sur la plage d'un fjord le cadavre d'un viking gisant face contre terre. Portant sur la tête une capuche, il était vêtu de vêtements de laine tissés à la main et de peau de phoque. à côté de lui, gisait un couteau tordu, usé et rongé. Mikko Blujon-Mered, on a du mal à imaginer ce que pouvait être la vie au Groenland à cette époque viking. Ça devait être une grande dureté, non ?
Une grande dureté, et puis au-delà de la dureté, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a des gens qui arrivent et qui doivent s'adapter à quelque chose de complètement nouveau, mais en important un modèle qui vient d'ailleurs. En fait, Éric le Rouge et les Vikings, en règle générale, les Norrois, ont essayé d'amener au Groenland, dans cette partie sud, donc encore une fois, il faut se rendre compte, on est à 59 degrés de latitude nord, hein, donc on est à la latitude entre Berlin et Oslo d'aujourd'hui, si vous voulez, donc on est sur un climat qui est plus favorable que le reste du Groenland, qui évidemment était très froid et beaucoup plus inhospitalier. Dans cette zone-là, ce que les Norrois ont essayé de mettre en œuvre, c'est de répliquer le modèle ou l'idéal islandais. Un idéal basé autour de l'agropastoralisme, avec tout simplement de l'élevage. Et petit à petit, on a vu que c'est au fur et à mesure de leur installation et de leur survie qu'ils ont petit à petit marinisé leur mode de vie en allant chercher de plus en plus de poissons. Mais fondamentalement, sinon, à la base, c'était quand même un mode de vie qu'ils ont essayé de transporter alors que le climat, même si il n'est pas très éloigné, n'était pas exactement le même.
Un peu plus dur, un peu plus rude.
Absolument, et puis un peu plus rude en fonction des saisons également, avec une mer plus difficile, avec des conditions de vie pas forcément idéales, qui a fait qu'il a fallu s'installer pour eux en fond de fjord, et que toute cette vie s'est organisée avec une certaine géographie assez particulière. Et vous avez parlé des deux settlements, des deux installations. Il vaut mieux parler d'installations plutôt ici que de colonies ou d'établissements, si vous voulez. Et effectivement, il y en avait un qui était relativement large et qui était plus peuplé, plus axé sur la dimension pastoraliste. Et puis de l'autre côté, l'autre établissement, beaucoup plus resserré, en fond de fjord, qui de fait était très, très axé sur, tout simplement, survivre.
Quand Éric le Rouge arrive donc au Groenland, est-ce qu'il y a déjà des habitants ?
En fait, au Groenland, on a eu déjà des populations qui sont arrivées beaucoup plus en amont de cela, puisque le Groenland a commencé à être peuplé plusieurs siècles en amont. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait deux types de populations qui se sont succédées. Une première type de population qu'on appelle aujourd'hui les paléo-esquimaux, et une deuxième type de population qu'on a appelé plutôt les Dorset, ou que certains appellent les pré-inuits. Les paléo-esquimaux, on estime qu'ils se sont installés dans l'ouest, ils viennent de l'Arctique canadien, ils viennent de l'Ouest, ils passent l'actuelle mer du Labrador et ils viennent effectivement au Groenland aux alentours de 2500-2400 avant Jésus-Christ. Donc le Groenland commence à avoir une population humaine, et aujourd'hui c'est attesté parce que de fait on retrouve tout simplement des outils de l'époque.
Mais quand les Vikings arrivent, il y a personne.
Voilà, là on est vraiment
ce dont vous me parlez, c'est bien avant.
Ouais. Ah oui, c'est bien avant. On est 3500 ans avant les Vikings, mais c'est juste pour replacer le fait que la colonisation du Groenland n'a pas commencé avec les Vikings. Et puis, à partir de 900-800 ans avant Jésus-Christ, là, on va avoir la période pré-inuite avec les Dorset qui vont arriver.
Donc, les Vikings vivent, vous l'avez dit, de l'agriculture, de la pêche. Ils font également du commerce. Hein. Ils ne sont pas complètement refermés sur eux-mêmes. Ils vivent du commerce de l'ivoire de morse.
Et oui, chose qui est toujours utilisée aujourd'hui. Et de fait, ce qui est très intéressant dans cette économie norroise, c'est qu'elle n'est pas du tout autarcique. Elle dépend d'un côté d'importation de l'ensemble de l'Atlantique nord-ouest, en réalité, avec des échanges qui vont de fait amener des marchandises qui vont être produites effectivement au Groenland, dans le Groenland actuel, et qui vont être échangés de retour avec le reste de l'Atlantique Nord-Ouest.
Et pourquoi les colonies vikings disparaissent-elles donc du jour au lendemain comme ça, autour du 15e siècle ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah, ben là, en fait, c'est une question d'adaptation par rapport au petit âge glaciaire, en fait. Ce petit âge glaciaire qui arrive, effectivement, au début du second millénaire.
C'est un refroidissement.
C'est un refroidissement temporaire, effectivement. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'au Groenland vont arriver les Inuits du continent nord-américain, et dont on va parler après. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la culture inuite a réussi à subsister, alors que la culture norroise, donc les Vikings, tout simplement n'était pas adaptée sur le temps long à ce petit âge glaciaire et a fini soit par partir, soit par disparaître.
Merci Mikko Blujon-Mered. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une autre occupation du Groenland qui débute au XIIIe siècle, celle des Inuits.